Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale qui vient tout juste de se terminer. Mais avant, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado que vous écoutez. On est également diffusé à BPM Sport. D'ailleurs, Hugues, on a eu une grosse semaine de diffusion, toi, moi et Nico, à BPM Sport. Et je veux prendre le temps de remercier BPM et les partisans, les fans qui nous ont écoutés toute la semaine en ondes, en direct, autant dans nos chroniques que dans la diffusion des matchs. Écoute, je pense que c'est bien reçu de la part du public. Et pour nous, ben, ça a été un méchant beau trip de pouvoir parler de notre passion en direct à la radio pendant les promos disaient 80 heures, là, mais on a fait plus que ça, c'est sûr.
Moi, je crois qu'on est en train de créer un nouveau format de radio ou d'audio même pour le tennis. On sait que les grands chelems le font déjà. T'as Wimbledon Radio, Roland-Garros, la même chose. J'en parlais avec notre collègue Anthony Marcotte hier en rentrant. Puis je lui disais, c'est un peu comme le baseball. Il y a un feeling où c'est un petit peu plus lent. On décrit, on analyse, mais ça respire quand même. Il y a des sons d'ambiance, évidemment. C'est très agréable comme écoute, finalement, le tennis à la radio. Puis on a créé un format innovant, je pense, qui n'avait pas été fait à Montréal depuis plusieurs années. Puis je pense qu'on a réussi à trouver le bon équilibre entre la description et l'analyse. On a beaucoup de plaisir et les codes d'écoute sont excellents aussi. J'ai hâte de voir les chiffres finaux de cette année. Je peux dire qu'en tout cas, au niveau du podcast, on est remonté à la première place au niveau canadien. Donc, on est numéro un au Canada, ouais. tout podcast confondu du côté tennis, devant les ATP Media, Tennis Channel et autres. On a une semaine incroyable. Donc, on voit que les gens veulent ce contenu-là.
Oui, cette semaine, on a reçu Ben Rotterberg de No Challenge Remaining, mais on ne lui a pas dit qu'il était 11e et nous premier. On s'est gardé une petite gêne, on ne lui a pas annoncé. Bon, évidemment.
C'est parce qu'on l'aime.
On est toujours fiers là, de. On est assez régulièrement premier, là, on doit le dire, mais on serait déçu de ne pas l'être rendu là avec les conditions pendant l'Omnium. On l'a été pour l'essentiel de la semaine au numéro 1 au Canada et on le rappelle, on est en français. Et on a publié beaucoup de contenu aussi qu'on a fait à la radio cette semaine. On a parlé à Bastien Fachand de Court Magazine qui travaille également avec Tennis Canada. Si vous voulez aller écouter l'entrevue avec lui, je pense que c'est vraiment intéressant. Il a écrit un bel article sur Carlos Alcaraz
dont super tu veux parler. C'est un des bons jeunes journalistes sportifs au monde. Sur le Big Three aussi.
Et on le travaille pour être un futur collaborateur de Sur la ligne. Et il n'avait pas l'air désintéressé, pas du tout. Alors qui sait, peut-être que vous l'entendrez peut-être régulièrement avec nous éventuellement. On a parlé également, bon, pendant un délai de pluie, d'un peu de la genèse du projet de Sur la ligne avec Anthony Marcotte. Et puis, je pense que c'était une discussion intéressante sur comment Hugues et moi, on a développé ce projet-là, particulièrement au départ et dans les dernières années. Si vous avez envie de savoir comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on entrevoit aussi pour l'avenir, ben c'est peut-être intéressant. C'est sûr que notre émission, elle n'est pas très intemporelle. De façon générale, on est très temporel parce qu'on fait un résumé de la semaine, mais l'entrevue de Bastien Fachand et la genèse du podcast, c'est des éléments qui auront une durée de vie assez longue, j'ai l'impression. Je pense que c'est intéressant. Si vous posiez la question, ça part de où ce projet-là et comment ça évolue, on répond à une bonne partie des questions, j'ai l'impression. Je remercie aussi les fans, les partisans qui ont interagi avec nous sur nos plateformes sociales, à la radio également. On a eu beaucoup de commentaires et je salue le travail de Nicolas Bergeron, Abraham Santerre, Sarah-Jade Champagne également qui travaille avec nous, en plus de celui de Nicolas, Richard et Isabelle Étier là, qui ont travaillé avec nous toute la semaine. Alors, c'est une belle semaine. Ma voix, elle est un petit peu fatiguée, je le sens un peu, mais ça a été un méchant beau trip et ça m'a fait bien plaisir de vivre ça avec toi, Hugues.
Absolument. C'est un plaisir de partager. C'est une de mes semaines préférées de l'année, chaque année. Et c'est facile, c'est fatigant, c'est exigeant ce qu'on fait. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'adrénaline retombe un peu parce qu'on fait des journées de ma foi 16h, 18h régulièrement durant l'Omnium. Mais c'est un bonheur de faire ça ensemble. C'est encore une fois une de mes semaines préférées de l'année. Et surtout d'amener tous les détails du tennis. On est souvent habitué de voir les grands événements, les grands chelems, les plus grands masters. Nous, on va couvrir tous les détails, ce que j'appelle la culture tennis maintenant, avec nos succès canadiens. Les gens en redemandent. Donc, on a beaucoup, beaucoup de détails à offrir. On est là à presque, mon Dieu, 48 semaines par année avec le radio podcast. Ouais. Donc, ça donne un accès inégalé au niveau des médias québécois.
On remercie les athlètes qui sont venus nous parler également. On a eu Bianca Andreescu, Léla, Rebecca, notamment, du côté canadien. On a eu la chance de parler de près, de poser nos propres questions aux meilleurs joueurs mondiaux, alors et joueuses mondiales. Alors ça, c'était bien cool. Commençons l'émission, si tu le veux bien. Parlons de tennis, puisque c'est notre mandat, Hugues Léger. Je veux commencer avec un commentaire général sur cette Omnium Banque Nationale. On est l'épisode du lundi et on va faire comme à l'habitude, même si on était là toute la semaine pour l'essentiel, on va faire un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Alors, on veut s'assurer que vous ayez tout en main dans le même épisode pour résumer ce qui s'est passé cette semaine. Mais d'abord, je te demande ce commentaire général-là. Oui. Quelle est ton impression de cet Omnium Banque Nationale qui était le premier de Valérie Tétrault à titre de directrice?
Malgré une gestion compliquée à la fin de la semaine, c'est une édition pour moi qui est un succès, qui est très réussie. J'ai eu les chiffres finaux ce matin qui vont au-delà des premiers chiffres que Valérie avait annoncé au bilan préliminaire dimanche, où elle avait annoncé 215 000. On arrive finalement à 219 000 entrées sur le site durant la période de 10 jours, incluant le week-end de la famille. C'est un record absolu pour le tournoi féminin à Montréal. C'est une réussite, c'est un succès. Encore une fois, on voit que le public est vraiment présent pour l'événement année après année. Ça a commencé très fort avec la présence de Jeannie Bouchard au premier tour des qualifications. Ah oui. 26 000 personnes sur le site le premier samedi et 60 000 au total pour le premier week-end, qui est un record aussi. Donc, je peux vous dire qu'il y a eu des premières tout au long de ce tournoi-là. Ça, c'est mon premier fait saillant. Donc, édition réussie. Valérie aura bénéficié aussi de la touche magique en night session d'un joueur ou d'une joueuse canadienne. Cette année, c'était Leila Fernandez, évidemment, dans son match contre Bia Haddad Maia et sa victoire contre la 12e au monde. Première victoire contre une top 20 en un an. Dans une situation où Leila se doit de redresser la barre, année compliquée, elle n'est pas contente de ses résultats. Moment magique, encore une fois, que je place au même niveau que les matchs. Chapeau Valov, Nadal, bien que c'était pas le même enjeu sur le match, mais il y avait le même niveau d'excitation et d'énergie. Ou que le Kuerten, Gustavo Kuerten, Simon Larose aussi, c'était un de ces moments touchés de la grâce là, des dieux du tennis qu'on a pu vivre ensemble avec ce match, Leila et Béatrice Haddad Maia. Puis où Leila a montré tout son courage parce qu'elle a échappé une balle de match à la fin du deuxième set. Elle s'est remise en selle tout de suite au début du troisième pour gagner en communion avec le public. Et c'était excellent. Ça, c'est le deuxième point. Après, on a quand même eu dans le carré d'as, il ne faut pas oublier, trois des quatre premières favorites. Donc, c'était quand même très bien. Mais là, la météo nous est tombée sur la tête et ça a été plus compliqué à ce moment-là. Et on a eu une fin un petit peu quand même en queue de poisson. Un 6-0, 6-1, on va se le dire, c'est quand même décevant. Il n'y a pas eu vraiment de finale, il n'y a pas eu vraiment de match, en tout cas, en finale. Mais somme toute, édition très, très réussie, cet OBN 2023. Parce que, encore une fois, il y a une passion autour du tennis qui enflamme la ville pendant deux semaines.
Indéniable. Et c'est ce que je retiens aussi. Et on me demandait un peu plus tôt à la radio aujourd'hui, dans le cadre d'une chronique bilan, quel était mes coups de cœur. Et un de mes coups de cœur, c'était la présence de des fans qui ont fait sale comble pour l'essentiel tout le tournoi. Et on en parle à chaque semaine ou presque, de dire que regardez dans les gradins de la plupart des tournois, allez voir à Cincinnati là, les matchs de deuxième tour là, à la télévision, là, vous allez voir pas mal plus de trous dans les bancs que ce qu'il y avait à Montréal. Ouais. Et ça, moi, j'ai vu un match aussi un soir où j'ai pu respirer un petit peu. On était sortis des zones, mais c'était assis dans les gradins pour voir Sabalenka jouer un soir. C'était son match de deuxième tour. Et puis, bon, il n'y a pas deux joueuses canadiennes et on avait l'impression que il y avait deux joueuses canadiennes sur le central et ça, ça en dit long sur l'intérêt et la connaissance des partisans de tennis au Québec et au Canada. Alors, et particulièrement à Montréal, j'ai l'impression. Alors, bravo.
C'est une foule. Je suis content que tu le mentionnes. Ça, c'est un bon point pour nous ce matin de discuter de ce point-là. On a une foule, je dirais, qui ressemble plus à une foule européenne qu'à une foule nord-américaine, tant au niveau de sa connaissance que de son intérêt, que de son respect au niveau des joueuses. Donc, on sait très bien qu'au US Open, ça parle beaucoup. C'est un événement glamour plus qu'un événement tennis, sport, je dirais. Alors, à Montréal, on a une foule qui est très respectueuse de l'historique du tennis, des joueuses et des conventions du tennis. Mm-hmm. J'aime pas trop étiquette parce qu'on essaie de démocratiser, de le rendre accessible. Donc, il faut briser certaines choses, mais le fait de respecter notamment le silence, c'est un élément qui est quand même important. Et ça, à Montréal, on l'a définitivement. Et je vais ajouter, Alex, un point. On a quand même une championne en Jessica Pegula qui est troisième mondiale. Ce n'est pas une championne qui sort de nulle part. C'est quelqu'un qui joue très bien après, année après année. Numéro un en double, numéro trois mondial. Jess Pegula est une championne tout à fait légitime à Montréal et ce n'est pas tant une surprise que ça.
Non, exact. On va en parler beaucoup de ce qui s'est passé du côté tennis, même si on l'a déjà abordé un peu plus. Mais si tu le veux bien, Hugues, on va aller écouter quelques extraits de la conférence de presse de Valérie Tétreault qui, elle, a fait le bilan de sa première année à titre de directrice du tournoi.
Merci d'être là. Dernière journée qui s'annonce un petit peu spéciale, évidemment, avec la tenue de deux matchs en simple plutôt qu'un. Ouvrir même le Court Rogers. Ce matin, on parlait à nos chefs de comité, à nos bénévoles. Évidemment que ça nous a demandé de monopoliser un petit peu plus de gens que prévu, mais je dirais que tout le monde le fait avec le sourire. Donc, franchement, ça, c'est très apprécié et je pense qu'on va avoir une belle dernière journée. On va s'en rappeler, assurément. Et avant de tomber un petit peu plus dans le bilan là, du tournoi, juste peut-être pour faire le point justement par rapport à la décision d'hier soir, parce que je sais que ça a soulevé quelques questions. On était dans une situation, en fait, où, étant donné l'heure de notre finale, qui était prévue pour 13h30, avec les gens de la WTA, on devait prendre une décision aux alentours de 20h, 20h30, sachant d'autant plus qu'Elena Rybakina était restée très, 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 très tard ou très, 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 très tôt, c'est selon, la veille. Et là, on analysait évidemment les radars météo et ce qu'on voyait, bon, il n'y avait aucune assurance d'être capable de disputer ce match-là à une heure raisonnable et de le disputer aussi en entier. On a consulté les deux équipes des joueuses. On a regardé combien de gens qu'il y avait sur le site. Je pense qu'il y en avait plusieurs quand même qui, à ce moment-là, s'étaient un peu découragés avec raison et avaient choisi de retourner à la maison. Alors, sachant qu'on avait l'option de jouer deux séances le lendemain, d'avoir une meilleure expérience probablement pour les joueuses, pour les amateurs, pour la télévision aussi, pour éviter de disputer notre finale en plein dans la même fenêtre que la finale masculine de Toronto. On a donc choisi d'annuler la séance avec les prévisions météo qu'on voyait et donc de faire deux séances aujourd'hui, une à 13h30, une à 17h30. Par rapport aux joueuses, je sais que Elena Rybakina, c'était sa préférence. Alors, elle tentait encore de récupérer de sa très courte nuit la veille. Deux matchs la même journée, ça lui faisait pas peur. Une autre qui était certainement heureuse, c'est Jessica Pegula. D'après moi, elle a pu prendre un bon repas tranquille hier soir en se disant « j'ai pas besoin de me lever trop, trop tôt. Je vais pouvoir confortablement regarder mes adversaires batailler sur le terrain et arriver en action, évidemment, un petit peu plus tard. » Et dans le cas de Samsonova, c'est probablement celle qui voulait le plus jouer hier soir, bien consciente que c'était pas le choix préféré de Rybakina. On a consulté évidemment les athlètes, mais tout ça s'est fait avec la collaboration de la WTA pour prendre évidemment la meilleure décision possible. Sinon, en termes de bilan, pour moi, personnellement, ça a été tout un baptême. Je me disais bien que j'allais me souvenir de mon premier tournoi. Et c'est sûr que je vais bien m'en souvenir et qu'on aura pas mal d'histoires à raconter. J'ai l'impression qu'on a tout vécu pendant ce tournoi-là. Oui, la pluie, la météo, on s'y attendait, bien honnêtement, avec l'été qu'on avait eu. On a eu de très longs matchs, mais de très bons matchs aussi. Je pense que, dans notre campagne marketing, on disait aux gens, venez voir non pas le meilleur du tennis féminin, mais le meilleur du tennis, point. Et franchement, les joueuses ont livré. On a eu un match qui s'est terminé à 3h du matin. Et on a les meilleures joueuses au monde aussi qui ont progressé dans notre tableau, ce qui a rendu tout ça encore plus intéressant. On a eu une belle histoire avec une Canadienne, évidemment, avec Leilani Fernandez. Je vous avoue que, bon, il y a toujours quelque chose, une magie qui s'opère, quelque chose de spécial dans l'air lorsqu'il y a une Canadienne qui est en action sur le court central, surtout lorsqu'elle bat une grande tête de série. Et donc, j'ai pris quelques minutes pour m'asseoir quand même pour regarder ce match de deuxième tour de Leila. Et l'ambiance qu'il y avait sur le court central, là, c'était quand même assez spécial. Et je sais qu'elle l'a bien apprécié. Elle a déjà hâte de revenir dans 2 ans en espérant, évidemment, aller un peu plus loin. Plus de déceptions pour Bianca et Rebecca Marino. Encore hier, j'avais des nouvelles de l'équipe de Bianca qui s'excusait presque parce qu'elle aurait évidemment souhaité mieux performer ici. Des fois, on veut presque trop, puis finalement, ben, ça ne se passe pas, mais ce sera partie remise, mais je vous avoue que je sais que Toronto y a goûté en 2019 en pouvant couronner championne Bianca. Et nous, on a bien hâte là, à Montréal de pouvoir un jour couronner un joueur canadien ou une joueuse canadienne. Je vais vous parler évidemment d'assistance parce que oui, on est dans une année record, comme l'a annoncé Eugène. Donc, notre record d'assistance pour une année féminine. Avant le tournoi de cette année, on était à 182 000 environ en 2014. Donc, vous vous rappellerez que c'était l'année avec l'effet Eugénie, alors que Eugénie venait tout juste d'atteindre la finale du tournoi de Wimbledon quelques semaines avant notre tournoi. Et ben là, cette année, en date de hier soir, donc en comptant la séance de hier après-midi, on était à 198 000, avec donc toujours 2 séances à compter. Alors, on pourrait dire que, bon, on devrait être un peu en haut des 215 000 d'assistance. Alors, c'est un bel écart, je pense, avec l'ancien record. On avait hâte de retrouver le tennis féminin et les gens ont vraiment répondu à l'appel. On a eu un super premier week-end qui déjà mettait la table. Ce sont 61 000 amateurs de tennis qui sont venus pendant le premier week-end. C'est exactement ça le but de notre week-end de la famille, de rendre l'événement le plus accessible possible, d'initier peut-être certaines familles aussi au tennis. Et je pense que là, ben, c'est mission accomplie. Les joueuses sont heureuses. On a vu et lu plusieurs messages d'appréciation des joueuses, entre autres de l'accueil, je pense qu'elles ont reçu, oui, par notre équipe qui est en charge du service aux joueuses, mais surtout l'accueil reçu du public. Je lisais entre autres les propos d'Arina Sabalenka qui disait que, bon, c'est un accueil comme ça, il n'y en a pas vraiment ailleurs dans le monde. Et ça, ben, comme on l'a toujours dit, je pense que c'est un peu la signature de notre tournoi et certainement notre grande fierté.
Bon, on en a glissé un mot. Somme toute, je pense que c'est une édition très réussie pour Valérie Tétrault. Évidemment, il y aurait eu quelques défis. On va en parler un peu plus tard là, quand on reviendra sur le cas Rybakina parce que c'est peut-être, je ne sais pas si le mot crise est le bon terme, mais le premier gros défi auquel Valérie Tétrault a eu à faire, surtout en raison de la température, on va y revenir. Je pense que pour l'essentiel, elle peut dire mission accomplie. Enfin, c'est mon opinion parce que
oui,
ça s'est déroulé
longtemps. Je le pense aussi complètement, oui.
Et la météo, ben, je veux dire, tu la contrôles pas. Là. Tu peux que vivre avec des décisions, des fois, qui plairont à personne. Et il n'y a pas toujours de scénario idéal. Mais je pense que, pour l'essentiel, ça a été une édition réussie. Bon, tu en as glissé un mot. Parlons de cette finale entre Jessica Pegula, qui est la championne, et Samsonova. Premier commentaire sur cette finale-là. J'ai hâte de t'entendre parce qu'on en a parlé. On en a parlé hors d'onde, on en a parlé en onde à BPM. Évidemment, ça n'a pas été une finale au niveau émotif particulièrement élevé pour toutes sortes de raisons. Ton commentaire général sur cette finale-là qui a couronné finalement Jessica Pegula.
Oui, il n'y a pas grand-chose à dire sur la performance, sur la finale en soi, parce que c'était un match de tennis qu'on a vu, mais ce n'était pas vraiment une grande finale. Évidemment, un score de 6-0, 6-1, c'est un match complètement à sens unique, mais Bon, on sait que Samsonova était à son deuxième match pour deux jours consécutifs. Là, il faut le faire quand même. Mais Pegula a un style de jeu extrêmement efficace, extrêmement compact. Elle a très bien joué. Elle l'a dit elle-même, c'était presque un match parfait. Donc, il ne faut pas trop enlever non plus à la performance de Jess Pegula. C'est Samsonova qui avait plus d'énergie, plus de jus. Hein. La tank était vide après tous les efforts qu'elle avait faits. Donc, moi, c'est ce que je retiens. C'est cette performance immaculée de Jess Pegula, mais contre une joueuse qui avait très peu d'énergie. Et on avait vécu un peu le même scénario plus tôt en journée, où c'était Rybakina qui semblait plus avoir d'énergie. Donc ça, c'est un élément important de la journée de dimanche. Et malheureusement pour la foule, bien que le match que la deuxième demi-finale jouée en matinée dimanche a été en 3-7, Rybakina a tout donné, mais après son 6-1 au premier set, c'était terminé. Je vous l'avais dit en onde d'ailleurs, Samsonova, si ça va en 3-7, elle va gagner, et c'est ce qui est arrivé. Donc, la même chose, Samsonova, à son tour, avait plus d'énergie pour la finale. Donc, c'était une journée un peu décevante pour les amateurs.
Oui, effectivement, ça a été une des finales les plus rapides de l'histoire. Ouais. Une avec le moins de parties jouées. En fait, c'est la finale avec le moins de parties jouées à égalité avec quelques autres finales là, ici à l'Omnium canadien. Si vous le voulez bien, je vous propose d'écouter les commentaires d'après-match de Jessica Pegula.
Same time, I played a really clean match. I don't really think I made any unforced errors or anything. Like, I played kind of a perfect match, and I feel like I did enough to where, yeah, I could just play freely, and I just kept trying to get the break and just hold for as long as I could until I won the match. So, yeah, it was a good day.
Hi, Jessica. Cotton Eye Joe infamously played through the speakers during your match yesterday, and once again, when you won today, what was your feeling hearing it the second time?
Well, I just learned it was his idea. It's when I won to play it again, which is hilarious. But, I mean, yeah, yesterday I just couldn't believe it was actually happening. I was like, where are we right now? Kawhi, of all songs, I don't even think I heard it the whole week. And it just came on, like, in the middle of the match at a really important point. So it was interesting. I come to learn that I lost a lot of points consecutively after Cotton Eye Joe came on. So I'm glad I got over the Cotton Eye Joe jinx or whatever you want to call it and was able to overcome that. So today, yeah, it was just funny after I won because it was almost my downfall yesterday, but not anymore.
You've had so much success in Canada. Well, you've played good, including Quebec City previously. Is there anything that makes you play that good in Canada?
I don't know. The courts, the court speed, I don't know, the conditions. I'm not really sure what it is. I think it's a little bit of mindset. You know, I've always kind of played well here, so I always come in like with a good attitude and good spirits that like I can always play good tennis here, and I think that probably helps. I like feeling like I'm up in the Northeast kind of area, maybe because that's where I'm comfortable. And I don't know, I feel like I say this every, like, Miami Open, I feel like I'm home. Here, I feel like I'm home. Everywhere kind of seems like home. I guess it's just sometimes you feel comfortable where you like to play, and that can definitely play into your results. So I think it's just always played into my results here. I don't know what it is, but I'll take it.
Elle m'a fait rire, Jessica Pegula, quand elle est revenue sur l'histoire de Cotton Eye Joe, parce qu'on a joué la chanson après la victoire également. Bon, c'était un clin d'œil au fait que la musique, elle est partie pendant le jeu à un moment important lors de la demi-finale. Et c'est intéressant parce que finalement, ben, elle est revenue dans ce match-là pour remporter le bris d'égalité par la suite. Alors, c'était drôle, remporter le match par la suite. C'était intéressant parce que, bon, ça a fait un moment cocasse pour tout le monde, et je pense que Jessica Pegula en voulait pas trop à personne. Ça a été bien intéressant, et c'est une victoire intéressante parce que elle a fait plaisir à la foule québécoise après dans son discours sur le terrain en disant ben, que, de un, elle aimait toujours jouer au Québec. D'ailleurs, je lui avais posé la question dans la conférence de presse, puisqu'elle a bien fait dans les tournois à Québec en début de carrière, et au Canada, ben, elle avait toujours bien fait à l'Omnium Banque Nationale avec des demi-finales. Et là, en plus, elle a confirmé que sa grand-mère venait de Montréal, alors reçu un appel, un accueil chaleureux de la part de la foule. Si tu le veux bien, Hugues, ben, on va écouter aussi les commentaires de la finaliste Samsonova qui, elle, ben, était particulièrement fatiguée là, après avoir joué deux matchs dans cette même journée de finale.
It was I still cannot realize because it was a tough week for me. So many matches, so many experiences, tough weather, so... But at the end, I made such an incredible result. I'm so happy.
Awesome.
Mm-hmm. Was two matches within 2 hours from one another too much?
Yes, I think, like, yes. Honestly, I would love to have more time, but they said that it's not possible, so it's okay. You know, I didn't have time to regenerate because I was to the physio room trying to tape all my body, and it takes 1 hour for this, so I don't know what to say. It was I was out of the court and then again in, I don't know, it was strange.
Bon, évidemment, Samsonova qui disait, ben, c'est pas un scénario idéal. Elle aurait préféré avoir un peu plus de repos. Il y a certains joueurs qui auraient préféré jouer directement après le match, mais il y a une règle que tu ne peux pas jouer avant 90 minutes. Et elle a dit, ben, j'ai pas pu faire grand-chose. J'ai reçu un massage et je suis rentré directement dans ma routine d'avant-match. Le massage durait 1 heure et après ça, ben, je suis rentré dans ma routine d'avant-match. Alors, c'est évident que, dans le contexte, c'est un bon tournoi pour elle. Quand même, je pense qu'elle était contente, mais il reste que, bon, c'est une situation un peu compliquée, ça c'est sûr. Bon, Samsonova, elle avait battu Rybakina en demi-finale dans cette même journée de dimanche parce que on a joué 2 matchs en raison de la météo. Rybakina qui avait joué un quart de finale qui s'était terminé à 3h du matin vendredi soir. On n'a pas pu jouer samedi parce que, bon, la pluie l'a empêché de jouer, alors on est obligé de jouer la demi-finale dimanche matin. Et ça a causé toutes sortes d'ennuis. Là. Rybakina qui n'était pas nécessairement contente de comment les choses se sont déroulées pour elle.
Ben, je dirais que c'est ce match de quart de finale où le tournoi a basculé un peu là, et on a subi les conséquences tout le week-end. Donc, match de 3h27 entre Daria Kasatkina et Elena Rybakina vendredi soir qui se termine à 3h du matin. Le match le plus long de l'histoire de l'OBN côté féminin à Montréal, le troisième de l'histoire si on met Toronto, parce que Bianca Andreescu a fait plusieurs matchs très longs et Béatrice Haddad-Maia aussi. Et c'est le 10e match le plus long de l'histoire, enfin, de la WTA depuis 2008. Donc, c'est un événement important quand on regarde ces stats-là, et événement important surtout parce que les conséquences, on les a subies après tout le reste du tournoi. Donc, Rybakina qui vient à bout de Kasatkina, 10e mondial, bel effort, belle victoire en 3-7 extrêmement serrés qui vont les trois au maximum. Rybakina qui, malgré ce match qui se termine aux petites heures du matin, arrête de voir les fans, signe des autographes. Tout le monde a été touché par ça. Vraiment super professionnel de sa part et très généreuse, Rybakina. Mais là, elle venait de taxer le reste du tournoi et peut-être même plus. Là. Donc,
ouais, c'est ce qu'elle a dit.
Ça s'est beaucoup compliqué par la suite pour elle.
Oui, c'est ce qu'elle a dit. Si tu veux, je te propose qu'on l'écoute parce que, bon, elle en avait beaucoup à dire sur l'horaire, Elena Rybakina.
We could see some taping on your shoulder and on the back. Do you feel any discomfort? How do you feel physically right now?
Yeah, definitely I feel destroyed just because of the scheduling and the whole situation. I'm not really happy about it, but it is what it is. Unfortunately, players cannot do much in these situations. The decisions are not really ours, and the weather was not helpful. So I picked up some injuries, I would say, but we tried to manage it and see how we will go from that. I think it's been a little bit unprofessional from the, I cannot say really the tournament, because I think that the most important is the WTA here, and the leadership a little bit weak for now, but hopefully something is going to change, because this year it was many situations which I cannot really understand.
Bon, évidemment, elle était déçue, là, Rybakina. Elle a dit c'est un peu compliqué de jouer dans ces conditions-là. Je pense qu'elle aurait voulu un autre scénario, mais d'un autre côté, Hugues, il n'y a pas 25 scénarios possibles dans le contexte de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on aurait voulu jouer le samedi soir un peu plus tard, alors qu'elle avait déjà fini tard le vendredi? Ce qu'on entend, c'est que ça n'aurait pas été son premier choix nécessairement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que de la faire jouer samedi matin. Et là, ben, le match qui a terminé vendredi soir, je pense que c'est plus ça qui la fatiguait, ce match-là. Mais en même temps, d'un autre... la même chose, c'est que c'est un peu compliqué. Là. Il reste plus beaucoup de place pour jouer des matchs jusqu'à la fin du tournoi. Là.
Voilà. Ben, c'est ça. Donc, effectivement, l'enjeu, il a débuté à 11h30 vendredi soir. Là. Est-ce qu'on a dû... assumer tout le reste du week-end après. Et encore une fois, les night sessions, c'est pas exceptionnel que des matchs commencent très tard et se terminent très tard.
Mais au US Open, on l'a vu l'année passée, exact.
Alcaraz, à 2h du matin. En même temps, pour les fans, pour la télé, c'est vraiment pas idéal. Et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Cette question-là se reposait vendredi, pour samedi soir aussi, si on commençait le match à 9h30, parce que c'est à peu près l'heure où la demi-finale aurait commencé. On a décidé de repousser parce que le radar météo était plutôt incertain pour la suite, donc ils ont préféré ne pas commencer. Mais quelques points là-dessus. L'organisation est prise à jouer sur un tournoi d'une semaine. Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre pour réussir à compléter le tableau pour dimanche. Et on va tout faire pour compléter le tableau le dimanche. Quand on sera dans une configuration 96 joueurs ou joueuses sur 12 jours dès l'an prochain, ça va faciliter un peu l'échelonnage des matchs. Moi, la seule question que je me pose, c'est quel est le couvre-feu de la WTA pour débuter un match? On sait qu'un match qui peut commencer à 10 heures, peut durer 3 heures, 4 heures, on le sait, hein, il n'y a pas de chronomètre au tennis, ça se termine quand ça se termine avec le dernier point gagnant, à 6 jeux ou 7 jeux gagnants. Mais voilà, je pense que le fait que le match a commencé à 11h30, c'est peut-être là où Rybakina disait « je trouve que la WTA a peut-être manqué de leadership ». Je ne le sais pas, c'est un truc qui tourne beaucoup dans les médias à travers la planète ce matin. Mais il fallait composer dans le cadre de l'organisation locale, de l'équipe de Valérie. Ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient. Puis tu as raison, Rybakina, je crois, ne souhaitait pas jouer encore un match tard samedi soir. Apparemment, Samsonova aurait été prête à jouer.
Oui, c'est ce qu'elle a dit en conférence de presse.
Exactement.
Entendu, en tout cas.
Donc, il fallait jongler avec plusieurs intérêts à ce moment-là, celui des joueuses, des agents, de la WTA, de la télé et du tournoi pour les fans. Donc, ça a été une décision très, très complexe et je suis certain que Valérie a pu compter sur les bons conseils et l'appui d'Eugène Lapierre, évidemment, dans cette décision-là. Mais c'était vraiment pas un casse-tête évident à compléter.
Oui, non, exact. Écoute, pour en revenir à cette finale-là, parce que la raison pour laquelle on a parlé de cette demi-finale-là, c'est que ça a affecté tout le reste du tournoi. On se doit quand même de rappeler que c'est un quatrième titre pour Jessica Pegula, un deuxième titre en WTA 1000, et je pense que c'est un titre qui lui touche particulièrement au Canada parce qu'elle a toujours aimé jouer au Canada. Et parlant de Canada, si tu le veux bien, on va faire une courte pause et au retour, on va parler des performances canadiennes à l'Omnium Banque Nationale.
La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente@commercialhotelmontville.com. Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente@hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, disponible sur toutes vos bonnes plateformes de balado et sur BPM Sport tous les lundis, en reprise à plusieurs occasions durant le week-end. Hugues, on va parler des performances canadiennes, mais avant, tu veux revenir sur un élément, tu veux qu'on parle... Je ne sais pas si c'est une épine dans le pied ou si c'est... Mais la question du toit, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle et plus... Là, c'était plus une option. J'en avais parlé avec Eugène Lapierre avant le tournoi. Il me disait, c'est plus de temps dans les cartes parce que, la pandémie est venue changer les choses, même si on était proche d'une entente. La pandémie a fait en sorte que les gouvernements ont eu d'autres priorités. Et aussi, on pensait avoir le toit pour mettre de la pression sur la WTA et l'ATP pour renégocier l'entente à long terme pour garder le tournoi ici à Montréal dans un niveau Masters 1000, WTA 1000. Mais cette entente-là, elle est réglée à long terme. Alors, on n'a plus besoin du toit comme argument pour sceller l'entente avec l'ATP et la WTA. Mais selon toi, on en est où? Est-ce que le tournoi de cette année va le ramener comme priorité ou ben, à tout le moins le ramener à l'ordre du jour?
Oui, je pense que ça va redevenir un sujet à l'ordre du jour, pas dans du court terme, mais dans du moyen terme, plus que du long terme, assurément. Et on voit comment le tennis évolue. On sait maintenant que les grands chelems ont tous un ou deux courts couverts déjà. C'est normal que les plus gros tournois qui suivent après, je pense à Indian Wells, Miami, Montréal, qui fait partie du lot maintenant, doivent considérer le toit pour plusieurs raisons. Dans le calendrier, on le sait, ça s'enchaîne très rapidement en début du mois d'août, fin juillet, donc avec Washington, Montréal, Cincinnati, New Haven après, pour ceux qui le font, pour arriver tous à temps au US Open. Et ces tournois-là veulent garder tous leur place dans le calendrier, évidemment. Et pour qu'ils gardent leur place, bien, il faut que les joueurs et les joueuses soient contents, que les fans soient au rendez-vous, que les commanditaires et les diffuseurs soient aussi contents. Donc, ça simplifierait beaucoup les choses dans le flow d'un tournoi logistique, même sur un tournoi de 12 jours, si le toit était présent. Tu as bien mentionné ce qui était une priorité pour signer le contrat à long terme avec la WTA. Avant la pandémie, ben, ça a été un peu repoussé maintenant que l'entente est signée. Mais quand on vit une semaine ou une fin de semaine comme celle-ci, puis Valérie le disait très bien aussi au niveau de son bilan, on aura d'autres incidents météo qui sont de plus en plus fréquents. On le sait, tout le monde voit quel été on vit en ce moment avec les feux, avec la chaleur, avec les pluies abondantes. Peut-être qu'on voudra un stade climatisé. Ça, c'est l'autre point. S'il fait vraiment très chaud, si on se trouve en canicule de 30-35 degrés, puis je me rappelle, Alex, l'an passé, on avait vécu ça un peu en début de tournoi, si tu te souviens. Mais peut-être que ce n'est pas juste la pluie qu'on voudra contrôler, ça sera la température dans le stade.
100%.
Donc, ça va revenir.
Oui, exact. La question du toit. Écoute, Tennis Canada, si on leur offre un toit, ils vont le prendre, c'est sûr, à 100%. Les autres, ils ne se posent même pas la question. Mais ils sont conscients aussi que c'est un enjeu complexe pour la population en général, parce que c'est pas Tennis Canada qui paierait a priori.
Ce serait un montage financier avec plusieurs parties, oui.
Alors, quand tu impliques la population là-dedans, ben écoute, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu sers bien le citoyen en faisant ça? Et la réponse est en partie oui, mais la réponse est en partie, ben qu'est-ce qui sera joué au stade IGA ou qu'est-ce qu'on fera au stade au Parc Jarry? Parce que si on met un toit et on dit, ben parfait, on en fait un stade d'événement, ça prendra plus qu'un événement par été.
Ça va devenir un stade multifonction, comme il y en a partout dans le monde. C'est la tendance actuelle. Donc, il n'y aura pas que du tennis. Pour rentabiliser cette infrastructure-là, il faudra un stade multifonction, c'est garanti.
Et ben, ça nous permettrait peut-être de recevoir dans un plus grand amphithéâtre la Coupe Davis en hiver ou la Coupe Laver en hiver, qui sait.
Oui, mais pourquoi pas des événements musicaux. Il y a eu des galas de boxe déjà. Il y a plusieurs événements qui pourraient être amenés ici, qui s'appelleraient sûrement à Tourisme Montréal, là, qui cherche toujours des sites pour réaliser différents types d'événements. On sait qu'il y a du tourisme touristique. Il y avait Metallica ce week-end au Stade Olympique. Ouais. Ils ont trouvé une façon que le son soit plus constant et de manière qualité au stade. Il y avait beaucoup de gens, un fort pourcentage de la foule à Montréal cette semaine, il y a Metallica qui venait de l'étranger. Donc, si on a un autre stade intérieur, 12 mois par année, pour des événements avec une capacité de plus de 10 000 personnes, ça serait une bonne chose aussi.
Hugues, bon, avant la pause, je parlais de que nous allions revenir sur les performances canadiennes. Oui. Sautons dans l'action et à tout seigneur, tout honneur, commençons avec la Coupe Roland Godin que tu as remportée ce week-end alors que c'était le jour de finale pour toi. Peut-être un petit mot là, sur ta victoire là, de la Coupe Vétéran 50+. Là.
Merci, Alex, d'en parler. Écoute, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais moi, je suis bien content d'avoir gagné ce tournoi-là, qui est un tournoi provincial vétéran. Donc, je compétitionne dans la catégorie des 55 ans et plus et j'ai remporté le championnat. Je veux surtout parler de Roland Godin. Donc, c'est la classique Roland Godin qui est disputée au club Valois à Pointe-Claire chaque année. Roland Godin qui est décédé l'an passé, un grand du tennis québécois, ancien joueur de Coupe Davis du Canada. Donc, je suis très content d'avoir gagné ce qui était la première édition de la Coupe Roland Godin cette année. Donc, et c'est une victoire que j'ai partagée avec toute l'équipe au stade quand je suis rentrée de mon match hier.
Ouais, en même temps, c'était plus un clin d'œil pour rappeler aux gens ben, que tu es directeur aussi de Tennis Montréal, directeur général de Tennis Montréal, et que ben, il y a toutes sortes de niveaux de tennis qu'on peut jouer au Québec et particulièrement à Montréal, compétitif, récréatif. Gênez-vous pas, il y a une belle vague de tennis en ce moment, c'est tellement un beau sport, et puis ben, ça me fait plaisir d'en faire la promotion à chaque semaine et de te féliciter ben, pour cette petite Merci, compétition. Alex. Mais revenons entre guillemets aux choses sérieuses. On fait ensemble ce qui s'est passé à Montréal. Je ferai avec Nicolas Richard ce qui s'est passé à Toronto. Mais commençons avec Leila Fernandez qui nous a fait vibrer. Bon, elle nous a amené jusqu'au troisième tour. On aurait pu espérer plus, mais quand même, c'est une belle performance dans une saison en dentis pour Fernandez.
Ben, on cherchait tous ce fameux match qui était pour la relancer. C'était ce match-là contre Adad Maia. Elle a tout démontré, ce qu'on aime d'elle. Belle préparation de match, exécution parfaite, un tennis d'attaque, les deux pieds qui sont posés sur la ligne de fond tout le temps. Elle redirigeait bien les balles, fait preuve d'une force de caractère incroyable au moment important, c'est-à-dire à la fin du deuxième, début du troisième set. C'était un moment magique. Là, c'est le mot que je vais réutiliser encore, qu'on a vécu sur le central. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas réussi à confirmer tout ça au premier tour des qualifications à Cincinnati, où elle s'est inclinée contre Navarro, malheureusement. Donc, j'espère qu'elle va quand même continuer de garder cette confiance-là qu'elle a pu emmagasiner dans le match contre Adad Maia.
Oui, ben faut dire aussi Navarro est mieux classé qu'elle au moment où on se parle, mais on sait que Leila est bien meilleure que son classement. Bon, elle a fait un troisième tour, elle a perdu contre Danielle Collins et ben il faut admettre que Danielle Collins a quand même tenu toute une semaine. Je veux dire, c'était une adversaire de taille, là, c'est pas une défaite, nécessairement surprise, parce qu'elle a battu Svitolina, qui connaît toute une saison à son retour au jeu depuis qu'elle a donné naissance. Maria Sakkari, elle l'avait battue également. Et elle a fait 3-7 à la numéro 1 mondiale, Świątek. Et là, je l'ajoute parce que c'est quand même significatif, mais elle avait battu en trois manches également Eugénie Bouchard lors des qualifications. Alors, pour Danielle Collins, c'est tout un tournoi.
Six matchs en sept jours.
Ben, écoute, c'est spectaculaire là, ce qu'elle a fait, Danielle Collins. Alors, je pense que dans les circonstances, c'est vraiment pas une défaite catastrophique pour Leila Fernandez. Elle a frappé une joueuse qui a connu tout un tournoi et qui, a visiblement arrivé à beaucoup de rythme avec des grosses victoires dans ce tournoi-là. Alors, je viens relativiser peut-être, là, c'est le terme que j'aime utiliser, mais la défaite de Fernandez dans le contexte.
J'ai hâte de voir la suite de la saison d'été de Danielle Collins. Est-ce qu'elle sera une prétendante au US Open? Pourquoi pas? Parce qu'elle a l'air vraiment très en forme en ce moment.
Bah, c'est une fille qui a déjà fait une finale de Grand Chelem, hein, Danielle Collins, faut pas l'oublier. Elle a déjà été classée 7e mondiale. Là, alors, c'était vraiment pas une adversaire très simple pour Fernandez. Et sans qu'elle ait eu un match complètement fou contre Fernandez, au final, c'est quand même une bonne performance. Et je vous propose d'écouter Leila Annie Fernandez après sa défaite.
Bon, les conditions étaient un peu plus différentes que jouer dans la journée, mais comme j'ai dit en anglais, c'était une bonne expérience pour moi d'apprendre. Il y a des bonnes choses que j'ai faites cette semaine et aujourd'hui, malheureusement, ma base n'était pas là, alors ça m'a pas aidé. Puis je pense je vais parler avec mon entraîneur, mon équipe, puis on va voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Peut-être match dans la nuit est un peu plus différent que dans la journée, alors on va voir quels sont les types d'entraînement qu'on peut faire pour que je peux m'habituer de ça. La température était quand même différente, fait moins chaud, plus froid, un peu plus de vent aussi, mais comme je disais, je vais juste voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Les conditions n'étaient pas idéales, mais mon adversaire aussi, elle a besoin de jouer dans ces conditions-là. Alors, c'est pas vraiment une excuse pour moi. C'est qu'est-ce que moi, je peux faire de mieux dans mon jeu, qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je dois faire de différent dans les entraînements pour que ce type de match comme ça ne passe pas encore. Non, c'est normal. Regarde, il y a beaucoup de joueuses qui perdent la balle, qui recommencent leur lancer. Alors, c'est pas abnormal. Comme j'ai dit, les derniers mois, c'était un de mes problèmes. Mais maintenant, avec mon entraîneur, qui est mon père, on prend ça au sérieux. C'est une de mes priorités améliorées. Alors, on va prendre ça un match à la fois, un entraînement à la fois.
Merci, Léla, de prendre le temps de nous parler. Je pense que ça a été une semaine assez forte en émotions pour toi. Quand tu mentionnais tout à l'heure en anglais que sur certains points, tu avais l'impression que tu as peut-être un peu surjoué, est-ce que c'est ça, c'est les émotions peut-être qui étaient là ce soir?
Peut-être les émotions, mais honnêtement, je pense aujourd'hui, je voulais être la joueuse qui était plus offensive, mais ça ne m'a pas aidée. Je pense que je voulais attaquer un peu trop à la place de juste jouer mon jeu, de jouer les angles. Alors, c'est une expérience pour moi. C'est un match perdu, mais beaucoup de leçons que j'ai apprises.
Au final, c'est une bonne performance pour Fernandez, mais bon, un peu dommage, comme tu le disais. On pensait qu'elle allait gagner beaucoup de rythme avec ça, mais c'est une défaite au premier tour des qualifications contre Navarro à Cincinnati. C'est un peu dommage. On verra qu'est-ce qui y arrivera au US Open. Qui sait, c'est une femme des grandes occasions. Peut-être que on pourra dire qu'elle a connu deux bons tournois en trois tournois. Alors, pourquoi pas? On verra le cas de Leila Fernandez. Dans le cas de Bianca Andreescu, mon cher Hugues, bon, on avait de grandes attentes. Elle est arrivée souriante, dynamique. On avait l'impression que c'était elle aussi peut-être le moment de relancer sa saison. Oui. Elle avait de la hargne. Elle était déçue. Elle dit « Je suis plus capable de voir ces chiffres-là à côté de mon classement. Je suis meilleur que ça. Je veux gagner plus que trois matchs dans le tournoi. » Malheureusement, ça s'est arrêté assez rapidement pour Bianca Andreescu, visiblement embêtée par des douleurs au dos, là.
Ouais, contre Camila Giorgi, qui était la championne en titre à Montréal. Un match sans où il n'y a pas grand-chose à expliquer. Hein. Ça s'est terminé 6-3, 6-2. Camila Giorgi, qui est une joueuse extrêmement offensive, quand son tennis est bien placé, elle est très dure à battre. C'est une fille qui frappe très fort malgré un gabarit tout à fait moyen. Mais elle était vraiment en jambes. C'était elle la bosse sur le terrain dans le match contre Andreescu, comme Bianca l'a bien dit elle-même. Et moi aussi, pour revenir sur Bianca, je l'avais mis comme une des belles histoires potentielles pour l'Omnium cette année. C'est finalement Leila qui est devenue l'histoire du tournoi du côté canadien. Mais on a appris après, effectivement, que Bianca souffre d'une légère fracture de stress au dos qui l'a contraint à se retirer de Cincinnati aussi cette semaine. Donc, elle avait une raison ou une explication là, pour sa performance. Parce qu'elle a été quand même débordée par Camila Giorgi dans ce match.
Oui, on l'avait remarqué avant même la diffusion du match, elle portait des tapings dans le bas du dos. Écoutez, on va l'écouter là, parce qu'elle a précisé ce qui se passait à ce niveau-là, mais ce n'est pas nécessairement rassurant la conférence de presse qu'elle a donnée après la rencontre.
Yeah. She hits the ball very hard. She takes the ball very early. She goes for everything and she acts like she's the boss on court. And she was the boss on court tonight, not me, sadly.
Any questions, please? Just wait for the microphone, please.
Thanks for being here, Bianca. Tough match. You refused some form of treatment on the court. First of all, are you injured? Were you injured in that second set?
Yeah. It's hard when I keep getting asked this question, like if I'm healthy, like what's going on. And in a way, I am, but I'm not. Last week during my match in Washington, I experienced some back pain, some SI joint pain, to be exact. And I've had this before. I've had to deal with it many times, actually. And yeah, it got better for a few days, and then, you know, I started playing again, and then obviously I felt some irritation, but I saw some light at the end of the tunnel. But with SI joint pain, it's very difficult because it's nothing very serious, but if you do push, you do feel a lot of pain, and that's what I experienced one of the days practicing before the tournament, and then, you know, practice and competing in a tournament is totally different. So obviously today I felt it a bit more and it did impact my performance, sadly.
Bon, elle a confirmé qu'elle avait des problèmes au bas du dos. Quand on lui a demandé, ben écoute, es-tu en santé? Elle a répondu, ben c'est bizarre de répondre à cette question-là parce que d'une certaine manière, oui, je le suis. Sous-entendu, j'ai vraiment été pire que ça dans ma carrière. Mais d'un autre côté, bon, je suis pas à 100%, je suis embêté. Et visiblement, elle l'a dit, elle a ressenti des douleurs au dos. D'ailleurs, elle a de la misère à recevoir le service de son adversaire. Et elle a expliqué que ben, c'est parce qu'elle était en douleur. Et là, ben elle a annoncé que ça datait de Washington. Elle a commencé à sentir des douleurs à Washington. Elle ne voulait évidemment pas sauter Montréal. Et là, ben, elle s'est retirée de Cincinnati. Bon, la grande question dans le cas de Bianca Andreescu, c'est la même qu'on se pose à chaque semaine. Dans quel état elle va se retrouver au US Open?
Oui, évidemment, championne 2019 du US Open contre Serena Williams, il faut le dire. Une grande joueuse de tennis, Bianca Andreescu, mais avec une carrière visiblement faite d'un parcours de blessures et d'enjeux au niveau mental aussi. C'est une carrière qui est vraiment qui suit un parcours qui est tout sauf linéaire. Donc, elle parle d'une légère fracture de stress. Donc, on ose espérer que c'est pas très grave et qu'elle pourrait se remettre en forme pour le US Open, mais on ne sait pas. À ce point-ci, là, c'est vraiment difficile. On sait qu'elle avait subi cette assez grave entorse ligamentaire lors des demi-finales à Miami cette année. Elle semblait être bien revenue après. Performance correcte du côté de Wimbledon. Mais là, bon, on verra ce qui va arriver. Moi, à chaque année qui passe, c'est un petit peu plus inquiétant, mais rappelons aussi qu'elle n'a que 22 ans, Bianca. Hein. C'est comme Félix. Ben hein. Voilà. C'est pas une joueuse qui est en fin de carrière. Il lui reste 2, 3, 4 très, très bonnes années encore devant elle. Mais souhaitons que physiquement, ça tienne le coup. On sait qu'elle a perdu du poids. Elle est très bien physiquement. Et je pense qu'elle a mis les efforts au bon endroit. Donc moi, je reste toujours optimiste pour Bianca parce qu'on connaît sa qualité de jeu et elle peut battre n'importe qui sur le circuit, mais on aimerait ça l'avoir enchaînée semaine après semaine de façon un peu plus constante.
Oui, surtout plus convaincante aussi parce que là, on se disait, bon, on est content, elle arrive à Montréal, elle a joué beaucoup de tournois, ce qui n'a pas été beaucoup le cas dans les autres années. Et là, ben, on apprend que finalement, elle joue malgré tout en dépit d'une blessure. Alors ça, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas nécessairement surprenant dans le cas de Bianca Andreescu. Un petit mot, Hugues, sur Rebecca Marino, qui, elle aussi, ben, écoute, connaît pas une aussi bonne saison que l'année passée, des hauts et des bas. Et ben, ça a été un court tournoi, elle, Rebecca Marino. Elle a perdu contre Katie Bolter en deux manches de 6-3, 6-1 à Montréal.
Ouais, défaite assez nette. En fait, tu vois, c'est seulement Leila qui aurait vraiment tiré avantage du laisser-passer. Parce que les trois Canadiennes, rappelons-le, il y a une semaine, quand on était au tirage du tableau, vendredi de la semaine dernière, la semaine précédente, moi, j'espérais bien voir nos trois joueuses canadiennes au moins passer le premier tour. Et c'est seulement Leila qui a réussi à le faire. Donc, ça, c'est un petit peu décevant. Mais avec Rebecca... On sait que Rebecca, elle, est plutôt en fin de carrière. Donc, qu'elle rentre dans les tournois de Grand Chelem directement, c'est une bonne chose. Je pense qu'elle aurait aimé passer à Montréal. Elle a fait le deuxième tour des qualifs à Cincinnati avant de s'incliner, elle aussi, contre Navarro. Après avoir vaincu Camilla Giorgi sur abandon, je tiens à le dire encore, Camilla Giorgi qui est dans les pattes d'une Canadienne, mais cette fois-ci, c'est Marino qui a eu le dessus. Mais bon, c'est une performance, je dirais... qui est correct pour un plus petit tableau. Hein, c'est pas un tableau de 128 ou de 96 à Montréal. Donc, c'est normal que ça soit plus compliqué un peu dès le premier tour. Quand même une performance acceptable de Rebecca. Mais je souligne quand même sa générosité. Elle était dans plusieurs événements sur le site dès le week-end de la famille. On la voyait partout. Peut-être que ça l'a fatiguée un peu aussi. Je sais pas, je pose la question. Mais Rebecca, c'est quand même un atout et une ambassadrice énorme pour le tennis canadien.
Ben, 100%. Et tu fais bien d'apporter la nuance de dire que, ben écoutez, c'est un plus petit tableau et ça fait en sorte que les matchs ben, sont beaucoup plus relevés très tôt dans le tableau.
Exact.
Déjà, les qualifications étaient d'un très, très haut niveau. Là. Alors, écoutez, quand vous aviez Camilla Giorgi en qualification, fille qui a remporté le tournoi il y a 2 ans, là, et 2 finalistes de Grand Chelem au premier tour des qualifications, ben écoutez, ça vous donne un peu l'idée de la force des qualifications. C'est pas un premier tour comme dans un 128 comme au US Open, par exemple. Ouais. Ben voilà. Un mot justement sur Eugénie Bouchard. Ben, elle a quand même bien fait contre Danielle Collins en demi-finale. Quand tu regardes que c'est une des joueuses du tournoi, elle lui a quand même fait un 3-7. Il y avait d'autres Canadiennes, mais je veux souligner la performance de Marina Stakusic contre Parks qui a bel et bien passé proche de sortir Parks. Mais bon, une fille qui a joué presque pas joué cette année, la Canadienne Stakusic. On l'a vu à Granby, mais elle a à peine joué quelques matchs. Et là, d'offrir une performance contre une fille top 50, ben, c'était digne de mention et je voulais qu'on en parle rapidement. Hugues, si tu le veux bien, on va faire une courte pause et au retour, je m'en vais m'entretenir avec Nicolas Richard. On va parler de ce qui s'est passé à Toronto.
La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente@hotelmontville.com. Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente@hotelmontville.com.
Chose promise, chose due, on va aller rejoindre Nicolas Richard à Toronto. Nico, t'as passé ta semaine à Toronto, comment t'as trouvé ta première couverture sur la route pour cette couverture de tennis?
Ça a été très, très chouette, Alex, mais ce que j'ai constaté, c'est à quel point le public montréalais était passionné par le tennis, était connaisseur de tennis, chose que j'ai moins senti du côté de Toronto, ce qui est une bonne nouvelle pour Montréal, mais je pense que la différence, elle est là dans la passion que les amateurs de tennis montréalais ont envers non seulement leurs athlètes, mais leurs tournois. Je pense que c'est la différence notable que j'ai notée au cours de cette semaine-là à Toronto.
Oui, mais en tout cas, force est d'admettre que les chiffres à Montréal te donnent raison. Ça a été sale comble, même durant les qualifications. Là, on en a parlé un peu plus précédemment dans l'émission. Écoute, Nico, je suis content de te parler. J'ai donné les bons mots à Hugues Léger un peu plus tôt dans l'émission, mais félicitations pour ta couverture, autant pour la presse que celle faite à BPM. Ça a été vraiment cool de vivre ça et de diffuser autant de tennis. Alors, honnêtement, bravo, puis on est tous bien fiers de toi. Je veux qu'on commence, si tu le veux bien, avec la finale. Yannick Sinner, parle-moi un peu de ce que tu as vu et puis comment tu t'évalues cette victoire-là dans la carrière de Yannick Sinner?
Avant le début du match, et évidemment, c'est en tout respect pour les deux joueurs, mais ce qu'on se disait, les journalistes, notamment avec Mike du podcast Matchpoint Canada, on se disait que ce match-là pouvait être long et à la limite plate. Je t'explique pourquoi, Alex. Yannick Sinner et Alex de Minaur ont fait une chose de manière exceptionnelle pendant toute la semaine, c'est-à-dire retourner des balles en fond de terrain. Et là, on se disait, oui, c'est une qualité de jeu, ça offre un bon spectacle dans des rondes peut-être moins importantes, mais en finale, sur le central, devant 12 000 personnes, c'est peut-être pas ce qui est le plus attrayant à l'œil. Néanmoins, ce que j'ai apprécié de Yannick Sinner, c'est qu'il nous a pas donné raison. Dès le début du match, et je dois dire qu'Alex de Minaur aussi, ont été offensifs. Ils ont monté au filet, pas de manière, je veux dire, généralisée, mais quand même, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont changé leur plan de match. Et Yannick Sinner nous a dit la veille du match, « J'aime pas parler de mon plan de match, mais vous verrez, je prépare quelque chose d'intéressant. » Et tout compte fait, il avait raison, parce que même si ça n'a pas été... disons, la trame narrative de ce match-là, là, les montées au filet, les services volés, ça a quand même été un peu plus différent de ce qu'on avait perçu au début de la semaine. Et oui, Yannick Sinner, je sais qu'on en parle souvent au podcast, il était temps qu'il remporte un Masters 1000, c'est complètement mérité. Yannick Sinner, tu sais, on parle souvent d'Alcaraz, avec raison évidemment, Holger Rune, mais Yannick Sinner, puis ça a été évoqué cette semaine, pourrait devenir le troisième membre du futur ou d'un potentiel Big Three avec Alcaraz et Rune. Et enfin, il est dans la cour des grands avec ce titre Masters 1000.
Ouais, les noms que tu nommes sont les bons, à mon sens. Sinner, Rune et Alcaraz, ça pourrait très bien être les joueurs qui vont dominer le tennis dans les prochaines années. Nico, si tu veux bien, ben, on va écouter les commentaires d'après victoire de Yannick Sinner.
Yeah, for sure. It feels amazing. No, great result. What I can share with all my team, with the hard work we put in, with all the people who are close to me, even if they're not here physically. So, I'm very happy about the whole tournament, and yeah, it's as I said, it's a really good and great moment in my career.
Hi, Andy, congrats. What did you learn from your losses against Medvedev and Rakash in Miami 2-2?
Yeah, I think, as I said before the final, you know, finals are a little bit different. And when you play for such an important trophy, when you go used to it a little bit before on your feelings before the match and also during the match, trying to stay quite calm mentally. And I think everything together today, I was doing better than in the previous two finals in the Master Series. I was very focused about my game, what I had to do, and I felt like I was executing it in the right way, so I'm very happy.
Assez stoïque quand même, Yannick Sinner.
Pas le plus expressif.
Non, c'est ça. On dirait qu'on est plus content pour lui que lui-même, mais ouais. C'est quand même une belle victoire. Quand on regarde son tableau, Nico, c'était très, très, très difficile. Berrettini, Murray, Monfils, Tommy Paul, lui qui est au Canada, il voudrait jouer au Canada toutes les années, il est encore sorti Alcaraz et Dominor qui lui aussi connaissait tout un tournoi. Honnêtement, Nico, là, c'est pas banal ce qu'a réussi à faire Yannick Sinner.
Non, mais on en a peu parlé, Alex, mais je pense que ça a quand même peut-être joué dans la balance. C'est-à-dire que Sinner a joué deux matchs de moins que Alex de Minaur. D'abord parce qu'il n'a pas joué son premier match en vertu d'un laissé-passer, étant donné sa position au classement. Exact. Et Andy Murray, son match est annulé. Donc, Sinner nous a dit que ça ne changeait rien. J'aurais tendance à ne pas le croire, Alex, parce que mine de rien, jouer deux matchs de moins dans un tournoi d'une semaine, je trouve et je pense que c'est assez significatif. Est-ce que ça paraît au final? Non, parce que Dominor était dans une forme splendide. Mais je pense quand même qu'ultimement, il est arrivé peut-être plus frais là, sur le terrain du central lors de la finale.
Petit mot sur Dominor qui t'a accordé quelques mots en français aussi. Nico, je veux qu'on parle de ça, mais aussi quel parcours spectaculaire de Dominor. Il faut dire qu'il avait un tableau vraiment, vraiment compliqué. Cameron Norrie au premier tour, là, un gars qui frôle le top 10. Gabriel Diallo, un Canadien à la maison. Taylor Fritz, peut-être le meilleur joueur américain. Medvedev, que plusieurs voyaient comme le champion de ce tournoi-là. Davidovich Fokina, qui connaissait tout un tournoi. Et là, s'incline contre Sinner, mais c'est quand même toute une performance d'Alex Dominor.
Complètement. Puis je veux d'abord mettre l'accent sur le fait français. Tu l'as dit, c'est une chose que j'ignorais, moi, qu'Alex Dominor parlait français. Et non seulement il l'a... Non seulement il le parle, mais il le parle très bien, même si lui est très gêné de parler dans la langue de Molière. Mais on a découvert ça cette année à Toronto. Puis il nous expliquait, je lui ai posé la question en conférence de presse. Ultimement, c'est parce que oui, il est né en Australie, mais il a étudié en Espagne, là où il a appris le français. Et depuis qu'il vit à Monaco, ben, il le pratique un peu plus. Évidemment, ce n'est pas parfait, là, mais ça demeure qu'il peut... Il peut avoir une conversation de manière très, très fluide en français. Puis je pense qu'à Montréal, l'année prochaine, ben, il sera posé quelques questions en français. Mais oui, pour revenir à son jeu, Alex de Minaur, on le sait, c'est l'un des meilleurs joueurs défensifs sur le circuit. Mais il a prouvé à quel point cette semaine, peut-être qu'on ne le prenait pas assez au sérieux. Il n'a jamais intégré le top 15. En fait, oui, une fois, ça a été son sommet, mais là, il intégrera pour de bon la 12e place mondiale, donc près du top 10. Mais Alex, je l'ai vu jouer d'après. Alex de Minaur, je l'ai vu jouer sur le court numéro 2, en fait, là, qui est le Grandstand à Toronto. Je l'ai vu jouer contre notamment Gabriel Diallo, et c'est hallucinant. Jouer contre de Minaur, c'est jouer contre un mur d'école. Et même Gabriel, à la fin du match, on lui a demandé « qu'est-ce que ça fait de jouer contre un joueur comme ça? » Puis il était un peu dépassé par les événements. Il disait « c'est tellement compliqué, parce que plus tu frappes fort, plus la balle revient vite. » Donc oui, Alex de Minaur n'a peut-être pas le jeu le plus excitant ou le plus spectaculaire, mais ça demeure qu'il est efficace et chaque balle qui passe de son côté du filet, il y a de bonnes chances que Dominor la retourne de l'autre côté.
Ouais, c'est incroyable comment il retourne beaucoup de balles. Ben, écoute, tu me parles de Gabriel Diallo, ça me permet de faire le lien vers les performances canadiennes. Tu veux bien? Commençons avec Diallo, qui quand même a surpris tout le monde au premier tour et puis a quand même eu une performance très raisonnable contre Dominor.
Ben, écoute, sort d'entrée de jeu Daniel Evans, qui venait de gagner à Washington, 21e place mondiale, et il a sorti de manière assez expéditive, même si ça a été des manches serrées au pointage, ça a été des manches corsées dans le jeu également. Il faut dire que Gabriel avait une espèce d'assurance, puis il est tellement puissant, Alex. Tu l'as déjà vu jouer également, là, à 6 pieds 8. Il génère énormément de vitesse et de force. C'était beau de le voir aller. Ensuite, contre Dominor, ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, il a acquis de l'expérience. Puis c'est ce qui est formidable, là, c'est qu'il a quand même était au bris d'égalité lors de la deuxième manche contre ultimement le finaliste de ce tournoi-là. Donc oui, pour Gabriel Diallo, c'est extrêmement positif et c'est une des premières fois que je le voyais jouer d'aussi près depuis qu'il est professionnel. Et je dois te dire, Alex, que je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Gabriel Diallo, mais de la manière dont il s'est comporté, je pense qu'il avait joué 3 matchs auparavant sur le circuit de l'ATP, là, ou 4, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il sera surveillé parce que c'est un talent pur, c'est un cheval de course, il est vraiment fantastique à regarder aller.
Ben, c'est pas pour rien qu'il est sélectionné à nouveau pour l'équipe de la Coupe Davis, et si tu le veux bien, ben, on va écouter sa conférence de presse après sa défaite contre Demina.
J'ai un style de jeu assez agressif. Puis, lui, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à rester proche de la ligne de fond puis essayer de ramener tout. Puis, plus tu frappes fort, plus la balle revient vite. Donc, c'est sûr que c'est un ajustement à faire. Puis, c'est quelque chose qu'il fait extrêmement bien. C'est pour ça qu'il est le classement où il est. Puis, c'est pas le genre de joueur qui va descendre 50, 60, même hors du top 100. C'est, il a toujours été constant dans ses résultats. À chaque semaine, il va faire une quart ou une demi. Donc, à la fin de la journée, ça montre à quel point il fait bien ce qu'il fait et il y a énormément de constance. Donc, en termes d'ajustement, c'est sûr que je dois continuer à peaufiner mon service, continuer à peaufiner ma balle après mon service, puis essayer d'aller chercher un peu plus de constance en fond de terrain, puis améliorer mes volées. Mais globalement, c'était une belle expérience.
Alors, Diallo qui, voit ça comme une semaine d'expérience. Il dit qu'il a beaucoup appris dans cette semaine-là. Alors, ben oui, c'est le genre de semaine pour apprendre, mais je pense que l'avenir est rose pour Diallo. Là, tu en parlais avant la clip. Là, je pense que c'est un gars qui va surprendre beaucoup de Canadiens.
Complètement. Puis ce qui est fascinant de Gabriel Diallo, j'ai eu la chance de faire un portrait de lui dans les pages de la presse. Et c'est un chic type, non seulement ça, mais c'est un érudit, Alex. Je pense que plusieurs personnes l'ignorent parce qu'on parle très peu de Diallo. Mais c'est un ancien joueur d'échecs, un gars qui lit énormément, qui a joué du piano même dans des concerts, un amateur de lecture, il parle le russe à 100%, sa mère est ukrainienne, donc il a appris le russe très rapidement, puis un peu à la blague, il disait que les gars dans le vestiaire souvent parlent russe en pensant que personne ne les comprend, mais moi je comprends tout ce qu'ils disent, je ne veux pas leur dire justement pour pas qu'ils pensent que je les écoute, fait que j'ai appris à découvrir un charmant jeune homme pendant cette semaine à Toronto, puis j'espère que l'avenir sera bon pour lui parce qu'il le mérite amplement.
Parlant de charmant jeune homme et personne érudite, Milos Raonic, son professeur d'école, me disait, celui de Tennis Canada, André Barrette, que c'était un excellent étudiant. Il était même en avance sur ses années à l'école au moment où il était au Centre national. Et bien, lui aussi, il a surpris à Toronto. Je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui s'attendait à le voir passer le premier tour contre Frances Tiafoe.
Surpris, tu dis, je pense que si tu m'avais demandé au début de la semaine quel Canadien a le moins de chances de s'en sortir, je t'aurais répondu rapidement, Milos Raonic.
On aurait tous répondu ça.
Ben voilà, Frances Tiafoe au premier tour, un joueur top 10 mondial qui adore jouer sur dur. On savait que ce ne serait pas simple, mais il a décoché Alex 37 heures au cours de ce match-là. Ça a été complètement hallucinant, malgré une petite controverse au filet là, dont on a parlé amplement pendant la semaine. Mais oui, Milos Raonic qui a surpris. Je ne pense pas qu'il est dans sa forme la plus optimale. Il faut dire qu'il revient quand même après 2 ans d'absence. Mais on a vu des séquences d'un gars qui a été finaliste à Wimbledon en 2016. Son service est toujours au rendez-vous. Il est plus léger, donc plus rapide. Évidemment, à certaines lacunes au niveau du jeu de jambes parce que ça a toujours été un peu sa faiblesse, la 6 pieds 5 pouces. Mais quand même, il a offert du bon tennis. Pas le tennis le plus excitant, là. Force est d'admettre que c'est pas le joueur le plus spectaculaire. Mais quand même, c'est efficace. Il est toujours puissant. Il a donné un bon spectacle pendant 3 jours au moins pour les partisans torontois pour la première fois depuis 2018, là, sa dernière visite à Toronto.
Ben justement, voici ce qu'il avait à dire après la rencontre en conférence de presse.
You know, a lot of fun things, a lot of good things, a lot of things to look back and be proud of, and to kind of look back with a smile and just happy with how the week went overall.
Hi, Milos. What are you most going to be proud of when you look back on this week?
I think it's just, you know, I did everything I could from, you know, as soon as Wimbledon was over. And also, it's accumulation of weeks before. I've kind of done everything I could step by step to try to make the most of it. Some things came together well. Still some things that I can hope to do better. But, you know, I've just did everything I could, and it took me where it did.
Milos, it was your first event on hard court in the comeback. first time in a tournament where you're playing three matches. How do you feel your body held up this week?
Yeah, it's, you know, a lot of things kind of expected. So I wish I could have been better on court today, but, you know, you can't kind of discredit what 2 years away does, right, from that intensity of playing and all these kind of things. I just a lot of good things, but yeah, I'll probably sit down and think about what I could maybe do better and see what the next steps are.
Roman Ostrownic, qui somme toute ben, est satisfait de sa performance à Toronto. Il a rappelé que ben, ça a paru quand même que ça fait 2 ans qu'il n'avait pas joué parce qu'il n'avait pas encore une fois joué 3 matchs dans le dans un même tournoi. D'ailleurs, 3 matchs représente la moitié de sa saison ou à peu près. Ouais, Nico, tu voulais dire quelque chose?
Ben, en fait, c'est carrément ça. Il avait joué 4 matchs auparavant.
Ben, c'est ça. Alors, mais tu sais, je pense que dans les circonstances, c'est très, très, très positif. Et ben, pour ceux qui pensaient que Milos était peut-être à la retraite, ben, écoute, je sais pas c'est quoi ses plans nécessairement, mais il reste que la façon dont il a joué, il pourrait se permettre de jouer encore quelques années puis être compétitif. Là.
Ben, lui-même, là, c'est pas, on lui a demandé parce que Mark Masters, de ma mémoire est bonne, de TSN, qui a dit, écoute, Toronto sera, en fait, le tournoi sera de retour à Toronto chez les hommes en 2025. Est-ce que tu comptes y être? Il dit, je ne sais même pas ce que je fais dans 1 an. Fait qu'avant de penser à ce que je fais dans 2 ans, prenons le temps de voir les choses comme elles le sont. Je ne sais même pas s'il sera au US Open, Alex, là, si j'ai aucune idée de comment ça va fonctionner. Je pense qu'il a le niveau pour jouer. Est-il le niveau pour revenir au sommet? Absolument pas. Mais est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être compétitif? Je pense que oui.
Ouais, ben ça c'est sûr. Autre Canadien, Nico, je veux parler d'Alexis Galarno. Tu comprendras que je me garde Félix pour la fin. Mm-hmm. Alexis Galarno, c'est une performance très positive. C'est un peu dans la façon dont ça s'est fait que c'est décevant. Mais quand même, je pense qu'il n'était pas trop amer de cette défaite-là quand tu l'as rencontré.
Non, au contraire. Puis tu sais, Alexis, il est dans un processus d'expérience. Il en parle souvent. Hein? Le processus, faire les choses de la bonne manière, ne pas brûler d'étapes. Et c'est un peu ce qu'il a essayé de faire là, contre Francisco Cerundolo. Il faut dire qu'Alexis, mine de rien, avait toute une mission. Là. Un joueur qui est bien classé depuis de nombreuses années, mais il avait aussi la tâche ingrate d'ouvrir le tournoi de l'Omnium Banque Nationale. Première journée sur le central à 11h dans le programme de jour, c'était le premier match. La pression y était, sa famille également, même s'il a perdu, je pense qu'il a, en tout cas, de ce qu'il nous a dit, il était satisfait de sa performance. Oui, il aurait aimé faire 2, peut-être 3 tours, mais contre un joueur de ce niveau-là, je pense que c'est mission accomplie quand même pour Alexis Galarno qui pourra reprendre là où il a laissé l'année prochaine à Montréal sur le central, du moins, on l'espère. Ça fait 2 années consécutives qu'il joue sur le central en ouverture de tournoi. Mais oui, pour Alexis Galarno, c'est de l'expérience. Et il était encore à Toronto jusqu'à jeudi. Donc, ne pas lésiner sur les efforts. Là. Oui, il a été éliminé assez rapidement, mais après ça, ça n'a pas été des vacances et des visites à la Tour du Ciel. Ça a été de l'entraînement, du tennis de haute qualité, des entraînements au soleil. Alexis Galarno veut progresser, puis je pense qu'il est sur la bonne voie.
Oui, parce que bon, il s'en allait à Winnipeg, là, c'est ce qu'il faut mentionner. Il est resté à Toronto avant d'aller à Winnipeg. Et juste rappeler le contexte de ce match-là, il jouait contre un top 20 mondial, ou presque, là, Francesco Cerundolo, et il avait un bris, il menait 3-0 dans la dernière manche avant d'échapper ce match-là. Alors, c'est ça, c'est la raison pour laquelle je posais la question, s'il était amer un peu. D'ailleurs, écoute, on va aller l'écouter là, en conférence de presse, mais il semblait quand même satisfait de sa performance.
Salut Alexis, 2 questions pour toi. La première, c'était quoi ton état d'esprit à 3-0?
Ouais, je pense qu'il y avait quelques projections dans le futur. Une première victoire en Masters 1000. Il y avait aussi l'ambiance qui était incroyable. Par contre, j'ai essayé de rester dans le présent au mieux que je pouvais. Ensuite, c'est ça, c'est pas évident, surtout justement quand tu as l'adrénaline comme ça. Mais je pense pas que ça m'a affecté trop dans mon jeu. Je pense que c'est surtout peut-être physiquement, je commençais à avoir une petite baisse de régime. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui l'a permis de revenir dans le match.
En anglais un petit peu, t'as enlevé une manche en 22e mondial. Ça c'est pas la victoire, un accomplissement quand même.
Ouais, je pense que pour le moment, je le réalise pas trop. C'est la défaite qui fait plus mal qu'autre chose. Mais je pense que avec du recul dans les prochaines journées, je vais réaliser que mon niveau de jeu appartient à ce niveau-là. Puis prendre confiance à jouer de plus en plus souvent de cette façon-là. Je pense que j'ai joué assez agressivement aujourd'hui. Puis j'ai été récompensé pour ça.
C'est Alexis, Antoine Radio-Canada. Es-tu plus satisfait de ton match ou déçu d'avoir laissé filer une avance de 3-0 en troisième manche contre un 22e mondial? Qu'est-ce qui est l'émotion qui ressort le plus en ce moment?
Ouais, en ce moment, c'est plus de perdre avec une avance d'un bris. Par contre, c'est la réalité du tennis professionnel de haut niveau en Masters 1000. Ça ne suffit pas d'avoir un bris. Je pense que si j'avais eu le deuxième bris pour faire 4-0, ça aurait été autre chose. J'ai eu des petites opportunités justement de me créer une avance de 4-0. Donc c'est un petit peu ce moment-là qui me revient en tête. Mais sinon, tu sais, je pense que j'ai quand même gardé un bon niveau de jeu. Je pense que c'était un petit peu physiquement, avec peut-être un pas de plus à chaque balle qui aurait aidé, là.
Bon, quand même un peu déçu, là, Alexis, on le comprend, on le serait à moins, là, mais je pense que c'est un bagage d'expérience, c'est le genre d'affaire que quand il va faire face à cette situation-là, la prochaine fois, j'ai l'impression que le résultat ne sera pas le même, Nico.
Je pense aussi, mais quand même, là, oui, on se disait, mon Dieu, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour tenir ce 3-0 avec un bris? Mais finalement, bon, tu l'as dit, ça a été à l'avantage de Cyrun Dulo parce que, évidemment, tu sais, oui, à ce niveau-là, Alex, on le répétera jamais assez souvent. Hein, Alexis Gallardo, en termes de qualité de jeu, n'est pas si loin que ça des meilleurs au monde. C'est ce qui se passe entre les deux oreilles, puis c'est la manière d'approcher chaque point qui est peut-être différente du reste de l'élite mondiale. Mais Alexis Gallardo n'est pas très loin là, de son objectif pour percer le top 100, je pense.
Ben, il a assurément prouvé au moins qu'il pouvait compétitionner contre ces gars-là des top 20 mondiales. Alors, c'est acquis, ça, c'est prouvé. Mmh. Il peut rivaliser contre ces gars-là et se donner une chance de gagner, ça c'est certain.
Complètement.
On termine, Nico, notre tour d'horizon canadien avec Félix Auger-Aliassime à Toronto. On se disait, bon, c'est peut-être le moyen de relancer sa saison. Il a connu toutes sortes de difficultés et ça ne s'est pas vraiment amélioré à Toronto. Il semblait être un peu inconfortable là, à parler d'inconfort, voire même de blessures qui étaient rétablies plus vite qu'il pensait, mais en même temps, semblait un peu inconfortable sur le terrain. C'est une autre défaite à son premier match pour Félix Auger-Aliassime.
Ouais, le jour de son 23e anniversaire, affrontait Max Purcell. Et pour les gens qui auraient peut-être entendu parler de Max Purcell, c'est qu'il avait éliminé Félix, lui, dès le premier tour aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Donc, il avait un historique avantageux contre Félix, mais malheureusement, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup, Alex. Vous avez vu les images, vous avez vu le match, vous avez regardé avec attention ce qui s'est passé. C'était pas chic, là, du côté de Félix Auger-Aliassime. Rapidement dans le match, on a senti un inconfort. Et je te dirais même qu'à l'entraînement, j'ai vu quelques séquences de lui qui s'entraînait avec Frédéric Fontaine. C'était pas net, c'était pas fluide, il manquait de rythme, il y a quelque chose qui clochait, comme s'il avait un caillou dans ses souliers. Oui, il s'est bien défendu, mais n'a pas joué comme un top 12 mondial ou même le top 10 mondial qu'il est.
Max Purcell qui a, défait trois Canadiens.
Ben oui,
Peter Polanski, Braden Schneur, Félix Auger-Aliassime, on ne l'invite pas à Toronto l'année prochaine.
Je pense que non.
À Montréal.
À Montréal, oui, à Montréal, c'est-à-dire, oui.
Ben justement, écoutons Félix Auger-Aliassime qui... des fois, semble à bout de réponse sur ce qui se passe dans sa carrière présentement.
Salut Félix, Antoine Radio-Canada. Tu le dis en anglais, je ne dois pas jouer avec la peur de perdre. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu fais en ce moment? Comme la victoire ne vient pas, tu joues sous tension et tu as peur de perdre sur le terrain et tu es dans ce mindset-là?
Ben, de toute façon, avant chaque match de ma carrière, j'ai toujours les mêmes un peu, sensations. C'est que bon, quand tu vas jouer, tu ne sais pas comment la journée va finir. Donc, tu as toujours cette tension, mais par exemple, aujourd'hui, je n'avais pas une tension qui était anormale ou qui était mauvaise. Je pense que j'ai toujours besoin de sentir un peu ce stress ou de me sentir vivant, tu vois, à l'intérieur, parce que si c'est inerte, c'est un peu comme si tu es un peu indifférent par rapport à la victoire ou la défaite, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'ai toujours un peu cette tension avant le match, mais je ne dirais pas que... Oui, c'est sûr que quand le match avance comme il a avancé aujourd'hui, puis la réalité, c'est que tu ne contrôles pas les pensées qui te viennent quand je suis mené un set et puis ça ne va pas dans mon sens, ben, tu essaies de te ramener dans le présent, mais tu as toujours cette pensée que tu vois le score qui avance, tu te dis, bon, il faut que je fasse quelque chose, sinon je ne vais pas sortir avec la victoire. Donc, tu sais, c'est des pensées naturelles, humaines qui te viennent, puis j'essaie de contrôler ça, mais ben, c'est pas nouveau non plus. Non.
Félix, Nicolas de la Presse, à quel point le bris d'entrée t'a peut-être un peu dérouté ou surpris pour commencer le match?
C'est sûr que c'est pas idéal pour commencer un match. Je pense que c'est surtout par rapport à lui. Ça a été très bien pour lui parce que bon, il a très bien servi après. Puis
ça a bien entamé son match. J'aurais bien aimé voir, en fait, si on est arrivé à servir ses gars, toi, 3 partout, 4 partout, toi, en fin de set, s'il aurait continué à servir de la même façon, je pense pas. Donc, c'est sûr que je pense que ça a été difficile pour moi, mais encore mieux pour lui de commencer le match comme ça.
Et à quel point tu dirais que cette séquence plus difficile prouve qu'il n'y a pas de match donné dans le tennis aujourd'hui? Que ce soit un qualifié, un 62e, il n'y a aucune victoire qui est garantie d'avance, tu sais?
Non, c'est sûr, on est dans des très bons tournois, on joue avec les meilleurs joueurs au monde, donc tous les matchs que j'ai dû gagner dans les dernières années dans ma carrière, ben, des fois le score était largement en ma faveur, mais ça reste que avant le match, je ne savais pas si j'allais gagner ou perdre. Ça, c'est la réalité de mon métier, puis du métier d'un joueur de tennis, mais c'est sûr que des fois on prend confiance, puis on a une sensation, OK, je pense qu'aujourd'hui, oui, je vais gagner. Puis en fait, avant chaque match, je suis convaincu que je vais gagner. Je ne vais jamais dans un match en me disant, ah, je vais perdre. La réalité est que tu as une chance sur deux de gagner, quoi, de façon statistique. Donc, c'est ça. Mais genre, avant chaque match, je me dis que je vais gagner.
Jessica Levinsky, Journal de Québec. Tu évoquais plutôt que tu as déjà connu des séquences comme ça, mais que les circonstances sont chaque fois différentes. Est-ce que tu es un peu capable d'élaborer sur les circonstances cette fois-ci? Est-ce que c'est la blessure? Est-ce qu'il y a un autre tournant dans cette saison-là que tu es capable de cibler?
Mm-hmm. C'est sûr que la blessure, ça a été quelque chose de nouveau pour moi d'avoir été. Je pense que c'est la première fois depuis que je joue que. Au mois d'août, j'ai joué aussi peu de matchs. J'ai essayé de jouer à certains moments dans des mauvaises conditions. Donc, la dernière fois que j'étais vraiment compétitif, ça remonte peut-être au mois de, mars, donc février-mars, donc à Indian Wells, Miami. Donc, ça fait un moment. Donc, c'est sûr que j'ai besoin de rejouer des matchs, de retrouver de bonnes sensations. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça fait 3-4 semaines que je m'entraîne à une bonne intensité, sans douleur. Donc, déjà, ça commence par ça. Mais c'est la chose principale qui est différente. Sinon, après, les victoires, les défaites, c'est des situations que j'ai vécues par avant.
Quand j'ai à bout de réponse, ce n'est pas nécessairement désespéré, mais tu sais, des fois, je cherche un peu ce qui se passe lui aussi du côté de sa carrière. Mais je parle avec Alex. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire?
Non, mais c'est juste que j'allais dire que, tu sais, même avant d'entrer en conférence de presse, on se demandait qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question. Alex, tu en as fait des conférences de presse, une et deux. Ultimement, quand un joueur est sur une mauvaise séquence, puis qu'il le dit, puis qu'il le constate, puis qu'il est au courant, qu'est-ce que tu veux ajouter outre que ça ne fonctionne pas?
Ouais. Ben, il avait dit qu'il était un peu inconfortable en conférence de presse d'avant-tournoi, mais visiblement, ça ne devait pas être si pire que ça, parce que, bon, il est allé jouer Cincinnati, après, il a commencé le tournoi, alors ça devait pas être si pire que ça. Enfin, Nico, en terminant, as-tu apprécié ton expérience malgré que Montréal touche ton cœur un peu plus?
Oui, ça reste que, en tout cas, ce que je préfère, puis je pense que c'est ton cas aussi, à chaque année à Montréal, c'est l'accessibilité qu'on a aux joueurs, bon, et aux joueuses là, cette année à Montréal. C'est hallucinant de voir des joueurs de cette trempe-là s'entraîner, regarder leur routine, voir comment ils approchent chaque pratique, de les voir dans la matinée se pratiquer et de les voir quelques heures plus tard sur le central mettre en application ce qu'ils ont mis de l'avant dans leurs entraînements. Pour moi, c'est ce qui me renverse à chaque fois, de voir Daniil Medvedev s'entraîner à côté d'Alexis Alarno. Pour moi, c'est une accessibilité et un, j'ai envie de dire un privilège, mais même s'il n'est pas réservé qu'aux membres des médias, là, les gens du public aussi peuvent y avoir accès. Mais pour moi, c'est ce qui me fascine. Puis, tu sais, j'ai été m'asseoir à quelques reprises sur le grandstand, juste à côté du box de certains joueurs, et j'ai pu apprécier à quelques centimètres près la conversation entre des joueurs comme Casper Ruud et Taylor Fritz à leurs entraîneurs. Pour moi, il n'y a pas d'égal. L'Omnium Hockey National, sa plus grande force, c'est son accessibilité aux joueurs. Et encore une fois, cette année, c'est le cas de Toronto.
Bon, ben écoute, merci de t'être déplacé pour nous et pour la presse. Excellent travail encore une fois, Nico. Et ben nous, on va faire une courte pause. Et au retour, ben on va regarder ce qui va se passer du côté de Cincinnati.
La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente à commercial@hotelmontville.com. Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente@hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Merci une fois de plus à Nicolas Richard qui, avant la pause, est venu nous parler performance à Toronto de nos athlètes et des Canadiens également. Alors, Nico qui a passé la semaine là. Alors, merci une fois de plus. Je retrouve le collègue Hugues Léger pour parler de ce qui s'en vient à Cincinnati parce qu'il y a deux gros tournois qui se suivent et qui se ressemblent. Ce sont deux tournois de niveau 1000. C'est une série très exigeante, celle du Canada, Cincinnati et quelques tournois et puis le US Open qui suit par la suite. Commentaire général sur à quoi s'attendre à Cincinnati, mon cher Hugues, ce sera la grande rentrée de Novak Djokovic en Amérique du Nord.
Oui, après cette finale épique, historique de Wimbledon, où Carlos Alcaraz a démontré que c'était lui le meilleur joueur du circuit en ce moment, la victoire en 5-7. Donc, tout le monde souhaite avoir au moins un ou deux matchs encore entre Alcaraz et Djokovic cette année. Pourquoi pas à Cincinnati cette semaine et évidemment au US Open dans quelques semaines. Hâte de voir dans quel niveau de jeu sera Djokovic. Est-ce qu'il accusera le coup du fait que le Grand Chelem calendrier lui a échappé avec cette victoire, avec cette défaite à Wimbledon après avoir gagné en Australie et à Roland-Garros? Moi, c'est une question que je me pose. J'ai hâte de voir s'il va être vraiment à son maximum d'ici la fin de l'année. On verra très bien. Grand retour du côté américain pour lui, on le sait, après avoir été exclu du territoire en raison de son statut vaccinal dans les deux dernières années. Mais évidemment, on souhaite cette finale-là. Alcaraz qui s'est fait battre encore une fois par Tommy Paul au Canada la semaine dernière, mais je suis convaincu, Alex, qu'il va monter en puissance jusqu'au US Open Alcaraz.
Ouais, c'est souvent le cas, hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la véritable rentrée en Amérique du Nord, l'Omnium canadien. Ouais. C'est là où la plupart des grands joueurs là, décident de revenir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué avant et qui s'amènent directement depuis Wimbledon. Certains vont jouer des tournois un peu avant, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas et certains comme Novak Djokovic, auront même pas joué avant d'arriver à Cincinnati. Alors ça va être intéressant de suivre. L'autre élément qui va être intéressant à surveiller, Hugues, et on en a parlé en début d'émission, c'est de savoir est-ce que Rybakina et Samsonova seront là? Elles, ils ont, au moment d'enregistrer, ils n'ont rien annoncé encore, mais bien franchement, là, je vais tomber en bas de ma chaise si elles jouent le tournoi.
Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Depuis ce matin, je surveille le tableau, je surveille la entry list. Il n'y a pas de mouvement encore. Rybakina est toujours là, mais je ne serais pas étonné que Rybakina se retire. Samsonova, elle est peut-être pas blessée. Peut-être que quelques jours de repos vont lui convenir. Oublions pas que Rybakina, dans son statut de quatrième favorite, ne commencerait pas normalement avant mercredi. Donc, elle a quand même un peu de temps pour se reposer, mais elle était un peu amoché en fin de tournoi à Montréal. Donc, effectivement, il y a une question qui se pose là-dessus. On verra. Sinon, toutes les joueuses sont là. Zviantek, Sabalenka, Pegula, évidemment, sont là. Jabeur qui fait son retour aussi, qui n'a pas joué à Montréal, malheureusement, mais elle est du tableau à Cincinnati. Donc, à suivre, beaucoup, beaucoup de bon tennis qui nous attend à Cincinnati. Pas de Canadienne, on l'a dit dans le tableau principal, mais Félix Auger-Aliassime est en action au moment où on se parle.
Ouais, on va y revenir à Félix, simplement peut-être faire le tour de ce qui se passe du côté de Cincinnati. Tu parlais du côté des femmes. Oui. Danielle Collins, elle, va jouer contre Pavlyuchenkova au premier tour. C'est un bon match parce que Pavlyuchenkova, elle a bien fait dans le passé, notamment à Wimbledon. Venus Williams, qu'est-ce que tu as à dire?
Svitolina, Wozniacki, tout un premier tour aussi aujourd'hui.
Oui, exact. Il y a beaucoup de matchs de premier tour qui sont intéressants. C'est un peu comme à Montréal. Là. Oui. Vondrousova contre Siniakova, les deux Tchèques. Vondrousova, la championne de Wimbledon, contre Siniakova, que c'est jamais banal, ce match-là. Yelena Ostapenko contre Karolina Pliskova au premier tour. Ça, c'est une ancienne numéro 1 mondiale contre une championne de Roland-Garros. Et sais-tu quoi, Hugues? Ces deux-là, affronterait présentement Elena Rybakina
au prochain
tour. Alors, rien de facile pour Rybakina dans son cas. Enfin, on verra. J'ai hâte de voir si d'abord elle va jouer. Et Samsonova, ben elle, si tu veux le savoir, elle serait contre la Tchèque Noskova. Et ça, ben c'est pas évident. Noskova, c'est une jeune Tchèque extrêmement talentueuse. Bon, est-ce qu'elle va jouer? Est-ce qu'elle jouera? Jouera pas, c'est la grande question dans le cas de la finaliste de l'Omnium Banque Nationale. Béatrice Haddad-Maia affronte Mukova au premier tour. Ça va être hallucinant, là, Béatrice Haddad-Maia, 12e joueuse mondiale contre la finaliste à Roland-Garros.
Samsonova est planifiée pour mardi à 11h, son premier match.
Mais c'est pas si mal. Elle jouera peut-être bien. Et regarde, en veux-tu des matchs spectaculaires au premier tour à Cincinnati? Victoria Azarenka contre Barbora Krejčíková, ancienne championne de Roland-Garros. Azarenka, multiple championne Grand Chelem et numéro un mondial. Écoute, là, et en plus, comme tu le mentionnais, Svitolina contre Wozniacki. Oh, du fun au premier tour du côté de Cincinnati. Ça va être bien intéressant. Ben, c'est normal, c'est un plus petit tableau également. Alors, c'est pas nécessairement surprenant. Du côté des hommes, Hugues, ben, Carlos Alcaraz pourrait affronter John Isner au deuxième tour. Ça pourrait être un match intéressant de deuxième tour. Je regarde le tableau. Également, Lloyd Harris contre Max Purcell, c'est pas un mauvais match de premier tour. Et tu m'en parlais hier, là, t'avais remarqué que Ben Shelton avait battu Christopher Eubanks. Oui. Ben ça, c'est intéressant, ça.
Duel 100% américain, quart de finaliste en Christopher Eubanks, qui était un peu la révélation à Wimbledon cette année. Deux joueurs qui ont l'air très amis, ils rigolaient ensemble dans le tunnel avant de rentrer sur le court. Belle victoire pour Ben Shelton, là, qui est un joueur impressionnant. Alcaraz, qui l'a joué à Toronto, a dit qu'il n'a jamais joué contre un joueur aussi puissant. Et c'est pas une mince chose, là, de faire une sortie comme ça, qu'Alcaraz dise de Ben Shelton, qui est un des joueurs les plus puissants. Donc voilà, gros début de tournoi. Puis effectivement, il y a plein de premiers tours excitants. Là, je vois Zverev, Dimitrov, je vois Dan Evans contre Musetti. Ça commence très, très fort du côté de Cincinnati. Et Félix, évidemment, qui est sur le terrain en ce moment aussi contre Berrettini.
Oui, exact. Urkacz, Kokkinakis également. C'est pas un mauvais match de premier tour. Et Andy Murray, ben, à chaque fois qu'il joue un tournoi, c'est toujours spectaculaire. On va affronter Achanov. Oui. C'est pas un match facile. Bien intéressant, ce match-là. Mais oui, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de matchs de premier tour qui sont particulièrement intéressants. Que penses-tu de Gaël Monfils contre Cameron Norrie au premier tour? Wow.
Quoi? Je pense que mon fils va passer. Il a quand même gagné 3 matchs à Toronto. Encore un autre. Il y a un hashtag qui va sortir bientôt. Papy du tennis. Hein. On parle de Wawrinka. On parle de Murray. On parle de mon fils, évidemment, qui performe très bien en ce moment. Et mon fils, c'est tellement un bonheur de le voir. C'est un des meilleurs showman du circuit. Très bon joueur. Et très, très smart aussi. On sait qu'il a battu Medvedev il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'était l'an passé sur surface dure. Il peut battre les meilleurs joueurs encore sur une bonne journée, mon fils.
Beaucoup de matchs intéressants. Et tu en parlais, autre match particulièrement intéressant, c'est celui de Félix Auger-Aliassime contre Berrettini. Tu penses quoi de ce match-là? On est en action là, présentement au moment où on se parle.
Gros test, je le regarde en direct au moment où on se parle. On saura le résultat quand le podcast sera diffusé ce soir. Berrettini qui serre pour le premier set à 5-4, avantage pour en ce moment. Écoute, c'est encore une fois, il n'y en aura pas de facile pour Félix, mais il se doit d'aller chercher ces matchs-là. Félix est 12e favori du tournoi. Berrettini n'est pas dans les têtes de série, mais on en parlait, c'est un ancien finaliste de Wimbledon. Gros test parce qu'il joue mieux en ce moment, Berrettini. Il est sur le retour et il vient de conclure le premier set. Donc, 6-4 Berrettini contre Félix Auger-Aliassime au premier set à Cincinnati au premier tour.
Oui, Berrettini, c'est un gars qui a quand même 7 titres sur le circuit de l'ATP. Il a déjà été 6e mondial, finaliste à Wimbledon. C'est en 2021, si ma mémoire elle est bonne. C'est un gars vraiment qui lance des bombes au premier service. Oui. C'est vraiment pas un adversaire facile de premier tour. Comme tu dis, il n'y en aura pas de facile pour Félix. Là. Il n'y a pas de break, comme on dit. Mais en même temps, tu te dois de battre ces joueurs-là. En ce moment, il est le mieux classé des deux parce qu'il est 14e mondial et Berrettini, il est 38e. La mauvaise nouvelle dans le cas de Félix, c'est qu'il a une fiche perdante contre, contre Berrettini 4-1. Par contre, sa seule victoire, et tu m'en parlais hier, elle est survenue à ce même tournoi. À Cincinnati, ça se passait en 2021. Alors peut-être que le fait de l'avoir déjà battu dans ce tournoi-là, ça pourrait aider Félix, mais là, c'est mal parti.
Oui, souvent les joueurs, pour une raison ou l'autre, se sentent bien dans un site sur un tournoi et vont souvent bien performer au même tournoi année après année. Donc, souhaitons que ce soit le cas pour Félix à Cincinnati. Parce qu'effectivement, une fiche de 4-1, c'est quand même conséquent, là, la domination de Berrettini, mais pourquoi pas une deuxième victoire? Mais si jamais ça a lieu, il va falloir 3-7 aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, c'est ce que Jessica Pegula a mentionné quand je lui ai posé la question. Ben, écoute, tu joues toujours bien au Canada, c'est le cas au Québec, c'est le cas à Montréal également et à Toronto. Y a-tu quelque chose qui fait? Ben, elle dit non, mais le fait que je joue systématiquement bien, tu arrives ici dans un meilleur état d'esprit et ça peut définitivement améliorer ton tennis. C'est ce qu'elle disait assez clairement. Alors, voilà.
Je suis quand même étonné, Alex, qu'elle t'ait pas répondu avec le maple syrup.
Ben, ça aurait pu, surtout que ben maintenant on sait qu'elle a des origines canadiennes pas trop loin, puisque sa grand-mère est de Toronto, mais qui sait, peut-être dans deux ans quand on la reverra à Toronto, à Montréal. Hugues, ben ça complète notre bilan de l'Omnium Banque Nationale, mais je ne te laisse pas aller tout de suite. Je veux en profiter pour rendre un dernier hommage parce que tu es directeur général de Tennis Montréal. Mais je veux rappeler qu'on a rendu hommage à Nicole Gibeault sur le central, si tu le veux bien. Peut-être un dernier mot pour cette dame qui aura été à la tête de Tennis Montréal pendant si longtemps.
Donc, on parle de Nicole Nobert.
Nicole Nobert, excuse-moi.
Nicole qui a été à la tête de Tennis Montréal pendant plus de 15 ans comme directrice générale. J'ai l'honneur et la chance de pouvoir lui succéder. Avec beaucoup d'humilité, parce que ce changement de garde qu'on voit au tennis en ce moment, avec Valérie qui arrive à Tennis Canada, Andréane Martin qui arrive à Tennis Québec et moi qui arrive à Tennis Montréal, c'est un vrai changement de garde de gens qui ont fait que le tennis est rendu où il est rendu, je dirais, au Québec. Donc, beaucoup de progression au niveau de l'intérêt, au niveau de l'accessibilité pour les jeunes, pour les écoles, pour les personnes plus âgées aussi. Donc, Nicole a tout un parcours. Elle a travaillé au Club Med, elle a travaillé à Val-des-Arbres, pour ceux qui s'en souviennent, à Laval, un club important dans les années 80-90. Donc, c'était bien qu'on rende hommage sur le cours central à Nicole Nobert vendredi soir. Et Alex, je te remercie pour la vidéo que tu as fait, qu'elle a beaucoup appréciée d'ailleurs. Là, donc, on a projeté sur l'écran géant une petite vidéo de deux minutes qui relatait les grands jalons de la carrière de Nicole.
Ben, ça me fait absolument plaisir. Et comme Nicolas Richard a dû quitter, Hugues Léger, c'est toi qui auras la lourde tâche de terminer l'épisode bilan de l'Omnium Banque Nationale, un épisode qui aura duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on fait à l'habitude, mais ça en vaut la peine, je pense, cette semaine de le faire ainsi, puisqu'on est le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Alors, Hugues, si tu le veux bien, je te permets de fermer l'émission.
Alors, bon tennis, Alex. Bon tennis, Nico. Où que tu sois, en Toronto et Montréal. Bon tennis, tout le monde. À la semaine prochaine.